RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, il y a 100 ans, le 7 novembre 1917, les bolcheviks s'emparaient du pouvoir en Russie. Au lendemain de cette révolution et durant les 3 années de guerre civile qui ont suivi, des millions de Russes ont été contraints à l'exil. Ils arrivent par vagues aux frontières orientales de l'Europe, en Turquie, dans les Balkans, en Pologne. Ils gagnent progressivement l'ouest du continent et en particulier la France dans les années 1920. Ces émigrés, on les surnomme les Russes blancs, par opposition aux Rouges bolcheviques. Ils se retrouvent nombreux à Paris et dans sa banlieue. Les princes, comtes, officiers de l'armée blanche ou industriels deviennent alors ouvriers chez Renault ou chauffeurs de taxi. Ils créent rapidement des cercles culturels, des paroisses, des associations de jeunesse, avec l'espoir de rentrer un jour au pays. Un siècle plus tard, leurs descendants, devenus ingénieurs, hauts fonctionnaires, médecins français, tentent de perpétuer les traditions. Anastasia Becchio les a rencontrés.
Les prières pour les morts résonnent dans la cathédrale Saint-Alexandre Nevski de Paris. Un office funèbre est célébré à la mémoire de toutes les victimes de la révolution russe de 1917 et de la guerre civile qui a suivi. L'office est présidé par l'archevêque des paroisses de tradition russe en Europe occidentale, Monseigneur Jean de Chariupoulis.
On n'efface pas l'histoire. L'histoire est butée. C'est notre rôle à nous, après ces années si difficiles, de garder cette mémoire.
Les fidèles qui assistent à l'office sont dans leur grande majorité des descendants de Russes ayant fui la révolution deuxième, troisième, voire quatrième génération. Quelques-uns sont venus avec des étendards de la Russie impériale. C'est le cas du président du cercle de la marine impériale russe, Alexandre Jevakov, descendant d'une famille d'officiers russes, est un haut fonctionnaire français, auteur d'ouvrages sur les Russes blancs et la guerre civile. Il est aussi marguillier, c'est-à-dire administrateur civil de la cathédrale.
Du côté des adversaires du bolchevisme, c'est un traumatisme qui se compte en millions de victimes. Et donc il est tout à fait normal que, pour utiliser ce terme contemporain de devoir de mémoire, on s'en souvienne, a fortiori les descendants des familles qui ont dû quitter leur patrie dans le contexte de la révolution et de la guerre civile, et tout particulièrement en un lieu comme une église, puisque une des premières victimes de la guerre civile et de la politique bolchevique ont été les prêtres. Donc c'est naturel que l'église se souvienne des victimes qui sont tombées pour la foi comme pour la patrie russe.
Consacrée en 1861, la cathédrale Saint-Alexandre Nevski dans le 8e arrondissement de Paris a longtemps été l'un des centres névralgiques de l'émigration blanche. Serge Ringe en a été aussi administrateur civil. Cet ingénieur de l'énergie nucléaire, né à Paris de parents descendants d'émigrés russes, estime qu'il est de son devoir d'assister à cette cérémonie en hommage aux victimes de la révolution de 1917.
Je pense qu'il était très important que ceux d'entre nous qui se revendiquent, comme moi, de l'héritage de la diaspora russe et à travers elle, en fait, de l'héritage des armées blanches, c'était important qu'on marque ça dans cette cathédrale qui est un lieu emblématique de cette diaspora. C'est en même temps émouvant et rassérénant quelque part d'avoir pu y participer, un peu comme quand on fait un deuil.
Depuis les années 1930, la cathédrale Saint-Alexandre Nevski se trouve sous la juridiction du patriarcat œcuménique de Constantinople. Le métropolite de l'époque, Monseigneur Euloge, refusant de prêter allégeance au régime soviétique, ayant rompu avec le patriarcat de Moscou. Son lointain successeur, Monseigneur Jean, a tenu à inviter l'évêque du patriarcat de Moscou en France, Monseigneur Nestor, venu de la nouvelle cathédrale du Quai Branly pour cette cérémonie d'hommage. Une présence qui dérange certains, à l'instar de Nina Volokov-Mojeïski, 80 ans.
C'est difficile. C'est difficile vu tout ce que le patriarcat de Moscou nous fait subir à nous, à notre archevêché. En 2003, au moment de la mort de Monseigneur Serge, le patriarcat de Moscou a envoyé un fax ici demandant à ce qu'on n'élise pas d'évêque, mais qu'on se rattache directement à Moscou. Ça a provoqué un schisme dans notre archevêché. Il y avait ceux qui voulaient rentrer à Moscou, qui voulaient se rattacher à Moscou, et il y avait ceux qui ne voulaient pas, dont moi. Ils essayent tout le temps, ils reviennent à la charge. Par exemple, ils ont essayé de prendre le cimetière de la Cocade à Nice, en changeant les serrures. C'est à nous. Pourquoi est-ce que c'est à vous? C'est un cimetière de gens qui sont morts ici. Pourquoi est-ce que ça doit être à Moscou?
Pendant plus d'une décennie, le patriarcat de Moscou, avec l'appui de l'État russe, a cherché à reprendre en main plusieurs lieux de culte emblématiques de l'émigration en France. Après une longue bataille judiciaire, la cathédrale Saint-Nicolas à Nice est retournée dans le giron de Moscou. Mais pour d'autres lieux, comme le cimetière de la Cocade, le bras de fer se poursuit. Ces épisodes ont fortement divisé la communauté, comme le rappelle l'historienne Catherine Gousseff, directrice du centre Marc Bloch à Berlin.
On constate dans l'émigration aujourd'hui des nouvelles fractures. C'est très sensible au niveau ecclésial de l'orthodoxie, avec des gens qui veulent renouer avec le patriarcat de Moscou, alors que effectivement l'émigration est dans une tradition ecclésiologique qui s'est beaucoup, je pense, libéralisée finalement. Et l'émigration est encore très remuée, même si c'est à travers des générations qui ne sont pas nées sur le sol de la Russie, mais est encore très remuée dans sa relation à la Russie.
Ces dernières années, la diaspora russe s'est souvent déchirée sur l'attitude à adopter face à l'Église russe et plus largement au pouvoir russe. Pour Cyril Sologoub, président de l'Action chrétienne des étudiants russes, mouvement de jeunesse orthodoxe, la spécificité de l'orthodoxie qui s'est développée en France doit être préservée.
Dans le contexte très particulier de l'exil, s'est développée une orthodoxie libre, pauvre, ouverte au monde occidental. Ce diocèse de tradition russe ne reçoit aucune aide d'aucun État ou d'aucun gouvernement, ne subit aucune pression, aucune ingérence, ce qui donne de la force, de l'authenticité, de la crédibilité à son témoignage et permet en particulier de transcender toute forme de nationalisme. On peut dire qu'il en est autrement du diocèse du patriarcat de Moscou. On constate aujourd'hui, malgré la séparation officielle de l'Église et de l'État, qu'il y a une alliance, une forme de collusion entre ces deux institutions.
À l'appel du clairon, une centaine d'enfants et d'adolescents se réunissent pour former une haie d'honneur à l'entrée d'une clairière. C'est ici, au cœur des Alpes françaises, que l'association de jeunesse issue de l'émigration russe, les Vityaz, organise ses camps d'été. Pour les enfants, comme pour la responsable du camp, Nathalie Sidorenko, aujourd'hui est un grand jour.
Nous attendons l'archevêque Jean, qui vient à l'occasion de la bénédiction de la croix que nous allons ériger en mémoire des victimes de la révolution russe.
Quelle joie de vous voir tous. Comment allez-vous? Ça va bien? Je retrouve plein de...
Dimitri.
Dimitri? Et toi? Tu t'appelles comment?
Anton.
Anton. Et toi? Alexei.
Les présentations faites, évêques, prêtres, enfants et moniteurs en uniforme bleu marine se dirigent en procession, portant icônes et étendards, vers le lieu où a été érigée une grande croix en bois blanc rapportée de Russie. Calot bleu marine flanqué de l'insigne Vityaz, une croix blanche sur un fond bleu encadré d'un losange rouge. Alexis Grigoriev est le président de l'association des Vityaz.
Cette année, comme c'était quand même le 100e anniversaire de la Révolution, qui est pour nous une date assez dure, parce que nos familles issues donc de l'immigration blanche, on s'est battu pendant la guerre civile contre les bolcheviks, et donc ce qu'on appelait les rouges, et suite à ça, nos familles ont dû immigrer. Aujourd'hui, nous voulons simplement nous souvenir et pouvoir avoir un lieu de prière et un lieu de mémoire pour tous ces gens qui ont disparu.
Pour l'occasion, deux évêques ont fait le déplacement. Monseigneur Michel, venu de Genève, né à Paris de parents ayant fui la Révolution de 1917, est lui-même membre de l'association qu'il a fréquentée depuis sa jeunesse.
Cette croix est érigée sur un territoire destiné à être un symbole de la persistance de la Russie. Le camp Vityaz est précisément une des manifestations évidentes. C'est que les Russes qui ont dû quitter la Russie, en principe, étaient appelés à disparaître et se diluer dans les autres pays du monde entier. Tous ces Russes, leurs descendants, ont continué à porter en eux cette chose qu'est la foi. Et personne ne peut arriver à la détruire.
Rastorat, créé dans les années 1930 en France par un jeune pédagogue qui avait combattu au sein de l'armée blanche, l'organisation des Vityaz accueille des jeunes russes ou d'origine russe. Sa devise, pour la Russie, pour la foi. La vie du camp est rythmée par les cérémonies de levée des couleurs, les prières. Les jeunes y apprennent aussi à marcher au pas et défilent en parade les jours de fête. Nathalie Sidorenko, la chef du camp.
Ce n'est pas du tout un camp militaire. Ici, nous essayons de transmettre un héritage culturel, de donner une conscience identitaire aux enfants, mais en développant aussi leur créativité, en leur donnant la chance de pratiquer différents sports. Nous avons la chance aussi d'avoir un camp situé sur un site exceptionnel dans les Alpes.
L'association des Vityaz est l'une des innombrables organisations créées dans la diaspora russe dans l'entre-deux-guerres. Une vitalité remarquable qui a souvent perduré jusqu'à aujourd'hui, comme le souligne l'historienne Catherine Gousseff.
Dans le cas de l'immigration russe, ce qui est particulièrement frappant, c'est le maintien jusqu'à aujourd'hui d'organisations de jeunesse qui ont été créées dans les années 20 et finalement qui renvoient à un constat qui est assez paradoxal, dans le sens où finalement les Russes en exil, et c'est sans doute là l'une des manifestations du traumatisme qui a été vécu, en fait ont eu peu d'enfants, ont eu relativement peu d'enfants, et quand on voit ce qui a été fait historiquement et jusqu'à aujourd'hui pour justement les jeunes générations, on est très frappé de cet écart entre une réalité sociale, numérique, qui est extrêmement minoritaire, et l'attention qui a été portée justement à ces enfants pour finalement, l'objectif initial, c'était empêcher la dénationalisation, de faire en sorte que les générations sachent d'où elles viennent, qu'elles maîtrisent la langue, qu'elles aient des références culturelles fortes. Et d'une certaine façon, la longévité de ces organisations de jeunesse jusqu'à aujourd'hui et leurs activités témoignent, même si aujourd'hui est très différent de ce que ça a pu être dans l'entre-deux-guerres, mais témoignent encore du sens de cette mission et du succès finalement qu'elle a eu.
Dans le camp au cœur des Alpes, sous leur grande tente bleue ou beige, ou dans le réfectoire, en petits groupes, les enfants suivent des cours de langue russe, d'histoire, de religion. Hélène Jagello-Knupfer est l'une des monitrices.
Les programmes sont écrits en langue russe. Ils sont également traduits. Il y a toujours quelques enfants qui ne parlent pas le russe du tout. Donc, nous les accueillons. Alors, c'est un petit peu une difficulté qu'on se rajoute. Ce serait peut-être plus facile de simplement de se dire « Non, on va les accueillir, on va ne prendre que des enfants qui parlent le russe. » Mais nous les accueillons parce que notre travail, c'est justement aussi de leur donner l'envie d'apprendre le russe et que, ben, quelque part, il n'y a pas d'âge pour acquérir une langue. On a vu beaucoup de jeunes, justement, qui sont venus chez nous qui ne parlaient pas russe du tout. Et puis qui, même très souvent jusqu'à l'adolescence, sont restés assez réfractaires même à l'apprentissage de la langue russe, mais qui tout à coup se sont éveillés à la culture russe, sont partis en Russie pour étudier, et qui à l'âge adulte, tout à coup, se sont mis à parler russe. Voilà.
Le chant rythme aussi la vie du camp. C'est Ksenia Anderson-Stewart, française d'origine russe, retournée vivre en famille à Moscou, qui mène les répétitions.
Le chant a toujours été un élément important dans la vie des Russes. C'est un moment joyeux, c'est aussi un élément de beauté. Ils apprennent à prononcer, j'essaie de traduire un petit peu pour ceux qui ne comprennent pas. Nous avons plusieurs répertoires, nous avons quelques chansons militaires qui racontent différents épisodes de l'histoire russe. Ensuite, nous avons des chansons populaires, aussi des chants plus modernes. Donc chaque année, quelqu'un découvre une nouvelle chanson qui est à la mode en Russie et on les apprend aussi maintenant, donc ça vient compléter le répertoire. Donc on essaie de varier.
Comme avant lui, ses parents ou grands-parents qui continuent d'occuper des fonctions au sein de l'organisation, Marc Sidorenko, 19 ans, reste fidèle au Vityaz. Désormais moniteur, cet étudiant en école d'ingénieur en informatique vient au camp depuis son plus jeune âge.
Je considère que le camp, c'est une mini-Russie un peu intemporelle, qui reste un peu inchangée. Dans ma vie courante, je me sens français parce que voilà, j'aime aussi la France. Disons que je me sens russe, mais pas dans la Russie d'aujourd'hui, dans une Russie un peu plus spirituelle, qui est pas du tout rattachée à la politique actuelle de la Russie.
Ah,
Russie intemporelle, hors sol, qui veille à préserver ses coutumes, ses chants, ses traditions. Pour les jours de fête comme aujourd'hui, le camp ouvre ses portes aux parents et amis des Vityaz. Nicolas Kedrov est l'un d'entre eux. Descendant d'une famille de musiciens qui a fui la Russie en 1923, ce professionnel de la balalaïka, un instrument traditionnel russe, donne régulièrement des concerts en Russie et en France.
Personnellement, je me sens français d'origine russe. Nous sommes quand même francisés un petit peu. Je dirais que cette culture russe est peut-être quelque part un petit peu stéréotypée ou figée parfois, mais elle conserve cette attache à notre histoire, une certaine authenticité, certaines valeurs que les Russes blancs ont conservées.
Un café parisien. Vassilissa, Sviatoslav et Grégoire Malko sont frères et sœurs. Nés en France dans les années 80, de parents descendants de Russes blancs, ils ont été élevés dans l'amour de la Sainte Russie. Un héritage qu'ils tentent de transmettre tout en l'adaptant aux plus jeunes générations. Tous trois encadrent un groupe de scouts russes en banlieue parisienne. La plupart des enfants qui fréquentent l'association sont issus d'une émigration beaucoup plus récente, ce qui n'est pas sans poser de nouveaux problèmes.
Cette année, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait pour le centenaire de 1917? Comment est-ce qu'on aborde tous les événements qu'il y a eu en 17 avec des gamins dont les parents ont grandi en Union soviétique? En fait, pour beaucoup de gens en Russie, l'histoire commence en 1917. Est-ce qu'on doit aborder le point de vue très négatif qu'on nous a inculqué quand on était petit? Est-ce qu'il faut prendre un peu plus de recul? Est-ce qu'il faut mettre un peu d'eau dans son vin?
Quand on leur raconte des choses et qu'ils les apprennent, il ne faut pas qu'après, quand ils rentrent à la maison, ils disent des choses qui vont horrifier leurs parents, qui ne vont pas comprendre. L'Union soviétique, c'est le diable, ou des choses comme ça. Enfin...
À la maison, typiquement, il y a un portrait du tsar et de la tsarine dans le salon. Donc forcément, on a été bercé dedans depuis gamin. Je pense que les 100 ans de la Révolution, c'est plus un phénomène qui nous touche, nous, en tant que descendants de l'immigration russe, que les Russes eux-mêmes, en fait. On ne sait pas quoi faire de ce siècle. On fait des camps en Allemagne aussi, et du coup, on a des Allemands là-bas. Eux, ils sont nés en Allemagne de l'Est. Du coup, c'était quand même... Enfin, ils ont vraiment un passé aussi imprégné de cette histoire-là. Et voilà, c'est un peu...
C'est très dur de rester objectif, en fait, sur ces sujets. Et de ne pas se laisser déborder par notre propre point de vue.
Comment marquer le 100e anniversaire de la Révolution russe? La Fédération des associations d'émigrés russes, qui regroupe une vingtaine d'organisations, a mené une longue réflexion sur la question. Le Cercle de la Marine Impériale, l'association d'Alexandre Jevakov, s'y est associé.
Les Russes ont une spécificité particulière d'avoir des points de vue extrêmement marqués, extrêmement divergents. Quand vous avez deux Russes, vous avez trois avis et ensuite ça suit une progression géométrique. Et donc nous avons mis beaucoup de temps pour publier ce document, qui est un document qui a en fait traduit le point commun des associations sur ce qu'était la Russie au moment de la révolution de 1917, les explications positives et négatives de cette situation. Ce que dit globalement ce communiqué de la FARC, c'est que nous souhaitons que les choses soient dites comme elles étaient, comme elles sont, sans a priori, sans tabou, mais sans oubli.
Le document n'a pas été adopté à l'unanimité. Quatre associations ne l'ont pas signé. C'est le cas de l'ASER, l'association chrétienne des étudiants russes. Cyril Sologoub en est son président.
Notre association considère qu'il n'est pas de son ressort de revenir sur ces événements historiques, qu'il faut laisser la place plutôt à des spécialistes de l'histoire, de ces révolutions, qui auront une approche beaucoup plus objective. Et surtout, on est d'une certaine façon, justement avec 100 ans de recul, on est reconnaissant de tout ce que l'immigration a produit ici. On a vu à quel point l'immigration et cette rencontre avec l'Occident qui a pu se produire a été fertile tant du point de vue culturel que du point de vue spirituel. Et qu'elle a produit de grands penseurs, de grands philosophes, des théologiens, des hommes de lettres.
Descendant de Russes blancs en France, 100 ans après la Révolution, un héritage complexe, un grand reportage d'Anastasia Becchio, réalisation Sandrine Straram.